Musica Jubairo, un podcast com sotaque do Studio ETC. Sabiam que com apenas instrumento podem viajar por todo o Mediterrâneo? Luca leva-nos numa viagem no seu oud, da Turquia ao Mali, passando pela Tunísia ou Espanha. Este brilhante intercâmbio musical é também uma reflexão urbana. Interrogamos-nos sobre a importância dos recantos, dos becos e das praças de Lisboa ou de Istambul para favorecer os encontros e aproximar as linguagens musicais.
Bonjour, moi c'est Lucas. Je traîne dans le quartier d'Anjos, Peña de França, Alfama depuis 3 ans. J'atterris ici parce que la musique, en fait, c'est un quartier où beaucoup de musiciens, musiciennes, artistes en tout genre résident. Et j'ai eu l'occasion de passer par Lisbonne. Et donc voilà, je vis par ici. Je suis musicien, donc je joue, je performe sur scène, je performe en théâtre, je compose pour beaucoup de gens, j'arrange pour beaucoup de gens, j'enregistre, je mixe. Ça va de la musique acoustique à des choses beaucoup plus expérimentales, électroniques. J'ai un gros bagage culturel de musique traditionnelle, on va dire française déjà, parce que je suis français, du sud-ouest de la France, donc musique occitane. J'ai grandi avec des gens de plein de communautés différentes, du pourtour méditerranéen, donc je suis assez spécialisé dans la musique méditerranéenne, la musique moyenne-orientale, la musique ouest-africaine, la musique musulmane en général. Je suis ici à Lisbonne parce que c'est un gros carrefour culturel aussi. Ce genre de ville, on va dire, avec des petites rues, des dédales, des vieilles... on va dire, voilà, on est en dehors des rues bien quadrillées qu'on peut avoir, des boulevards haussmanniens ou des choses qu'on peut voir aux Amériques. Je suis plus habitué à ça, j'ai toujours grandi là-dedans, j'ai traîné, j'ai vécu à Istanbul. C'est ce genre de ville-là qui m'intéresse, donc je trouve qu'il y a des similarités. Des collines, où c'est un peu similaire à ce qu'on peut vivre par exemple à Belleville et à Montmartre, à Paris. Les collines, c'est des lieux de piraterie pour moi. C'est compliqué à organiser pour les gouvernements, je sais pas. Il y a un truc comme ça, la police peut pas venir partout, ils peuvent pas venir à beaucoup de voitures. Donc ça encourage aussi des endroits un peu plus... libertaire, autogestion, etc. Et du coup, la colline d'Anjos, d'Alfama, de Peña de França, ben, en fait partie pour moi, fait partie de ces îlots-là qui existent un peu partout. Ce genre de topographie-là, ça encourage à avoir des lieux comme des bars, des cafés ou des petites places, des lieux dehors avec des acoustiques particulières où il n'y a pas forcément de voiture qui passe, il y a des lieux de résonance, on peut jouer en acoustique. Voilà, le fado, il est né comme ça, c'est genre dans les petites rues dehors, on peut jouer, on n'est pas au milieu d'un boulevard haussmannien où le son se perd et on peut rien entendre, en fait. C'est genre juste horrible en tant que musicien de jouer dans ces endroits-là, alors que dans les dédales, dans les labyrinthes, les choses résonnent. On trouve des endroits qui répondent à l'instrument, qui répondent aux voix, et la musique peut se faire et les gens peuvent se rencontrer. On peut rencontrer des musiciens, des musiciennes, les gens aussi peuvent écouter. Donc ici, ouais, toute la musique latino-américaine, elle est là. La musique lusophone au sens large, le fado, la musique portugaise, la douceur de la musique portugaise. J'aime beaucoup ça, on retrouve ça beaucoup dans la musique lusophone, le côté aquatique. Parce que le lieu, je sais pas, on est inspiré par ça. On n'a pas besoin de jouer comme des fous super forts dans certains endroits. On peut jouer sur la pointe des doigts, dans la délicatesse. Donc voilà, c'est des choses qu'on sent. En même temps, je sais pas, moi, c'est des choses que je me demande des fois, le passé de la dictature ici, où il fallait être discret. On doit savoir jouer sur la pointe des doigts, sur la pointe des pieds. Chose que dans d'autres pays, on s'en fout carrément. Vous allez, je sais pas, au Tejo Bar ou à Tipica, à Alfama, c'est des endroits... très connu pour la scène acoustique, pour les gens qui jouent de la musique acoustique, alors que moi je suis pas forcément, je fais pas mon argent avec ça, mais c'est ultra important d'avoir ça dans mon paysage autour pour sentir que toutes les strates de musique sont présentes dans une ville. Ça serait bizarre d'avoir que des lieux de concert ou que des stades et des zéniths pour écouter de la musique. Comme ça serait un peu nul aussi s'il n'y avait pas ça pour accueillir des gros festivals ou d'autres types d'artistes. À Lisbonne, je trouve qu'il y a du côté impromptu, informel, à se traîner dans une terrasse de café comme j'étais tout à l'heure, jusqu'au café associatif pour tester des premiers projets, aux salles de concert, au festival. Il y a toute une chose qui se décline comme ça, où il y a un peu tous les maillons qui existent. Il n'y a pas vraiment de maillons, on va dire, de maillons manquants. Après, il y en a qui sont plus faibles, ça pourrait être plus équilibré. C'est l'air du temps aussi, les temps sont durs, bon, voilà, mais ça fait que ce quartier, pour moi, est intéressant pour ça. Et je pense que c'est intéressant pour beaucoup de musiciens et musiciennes pour ça aussi. C'est que c'est très très facile de se rencontrer. On n'est pas dans une grosse ville. Ça reste une vie de village. Essentiellement, je travaille avec des gens qui vivent dans le quartier, en fait. Donc j'ai des projets avec un franco-brésilien où je joue du oud, qui est un instrument oriental, mais voilà, où je peux traverser beaucoup de langages et d'esthétiques. On trouve un langage commun avec ce percussionniste qui joue des congas, qui est plus dans la samba ou dans le candomblé. Et on trouve des liens en commun. On essaie de construire un langage avec nos langages qu'on utilise déjà. Et lui, il habite à 5 minutes de chez moi. Et puis, on se voit, on travaille sur ça. À une époque, j'avais un collectif d'artistes où on était tous ici à Anjos et on a monté un studio d'enregistrement. Donc il y a toujours des gens qui continuent à venir. Tout ça de manière informelle aussi. Hein. C'est pas très. On a une vision à vouloir être pirate, on va dire, ou pas être trop visible. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans l'industrie musicale en France. Il y a des choses qui sont cool, il y a des choses qui ne sont pas cool. Et c'est une volonté aussi de mettre un pied en dehors de ça et de retourner dans mes jeunes années à être plus indépendant. Et du coup, un quartier comme ça, ça encourage à ça. On est proches, on est les uns à côté des autres. C'est facile de créer des projets. En tout cas, les relations, elles sont là. Même si les projets ne sont pas forcément visibles, les gens se connaissent ici. Et y en a qui partent, il y en a qui reviennent, il y en a toujours... Ça reste. Ce qui me semble primordial, c'est que la musique, elle existe. Elle existe en dehors d'un enregistrement, la musique. Elle est toujours là. Et dans ce quartier-là, elle est vraiment palpable. Elle est là, autour. Elle n'est pas difficile à trouver. Donc voilà, il y a des lieux où on sent la musique proche de soi. Et on sent les gens proches de soi. Et ça, c'est mon mood. C'est ce que j'aime. Donc déjà, je joue des cordes. Je suis un joueur d'instruments à cordes qui se pincent. Donc... des guitares, des mandolines, des luths, la oud. Moi, j'ai un rapport charnel avec le toucher, où j'ai besoin de sentir que ça vibre. Et forcément, bon, dans la culture lusophone, il y a beaucoup d'instruments à cordes. On a l'habitude, on connaît la guitare. La guitare est une évolution de plein d'instruments à cordes. Elle est allée dans plein de directions. Ce qui est intéressant avec le Portugal par rapport à d'autres pays en Europe, c'est qu'ils ont gardé ça. Il y a la guitare portugaise qui arrive d'Irlande, en fait, mais il y a plein de la viola de terra, il y a des choses comme ça, si vous allez aux Açores. Bref, il y a plein de déclinaisons d'instruments à cordes. Donc, moi, en tant que joueur de cordes ici, c'est intéressant parce que je vois des vieilles techniques de lutherie, des raisons pour lesquelles les instruments sont faits comme ça, si les cordes sont doublées, accordées d'une certaine manière, parce que ça va avec un contexte musical, ça va avec une histoire, ça va aussi avec une manière d'avoir un système musical pour parler. La musique, c'est pas un langage universel. Je suis contre cette idée-là. C'est une sensation universelle, mais ce sont des langages. Il y a plein de langages, il y a plein de systèmes. Comment on arrive à trouver un terrain commun avec des gens et leur faire comprendre qu'on les comprend avec un langage? Est-ce qu'on a un langage commun? Est-ce que cette personne-là a plusieurs langages, etc.? Et ça, on le découvre quand on joue, quand on discute à la manière de jouer, les rythmes, la manière de se respirer, et puis les systèmes musicaux utilisés. Vraiment, il y a des langues. C'est Monsieur Oud. C'est un instrument à cordes doublées, donc c'est-à-dire que presque chaque note ont deux cordes pour la jouer. Ça a une certaine résonance et c'est un vieil instrument qui a peut-être 5000 ans d'histoire. Et c'est un instrument qui a évolué, qui a plusieurs répertoires, qui a encore joué aujourd'hui, qui a des styles différents, c'est comme la guitare. Hein. La guitare brésilienne n'a rien à voir avec la guitare espagnole, flamenco ou la guitare swing parisienne, voilà. Mais ça, c'est un instrument du coup qui est joué du Maroc jusqu'au sud Soudan, sud Égypte, qui peut être des fois joué au Mali par des Touaregs, mais bon, beaucoup moins maintenant. C'est plus la guitare. Ça va jusqu'en Iran. Donc ça couvre une large zone culturelle et différentes zones culturelles qu'on peut regrouper, sous-grouper, etc. Donc, d'où mon envie d'apprendre cet instrument-là aussi. C'est un instrument sans frettes, sans cases, sans touches, comme un violon, comme un violoncelle, ce qui permet aussi de pouvoir glisser sur les notes et d'avoir toute une référence, d'avoir une facilité à faire parler l'instrument et avoir des accents, des intonations particulières. Ça résonne bien. Des choses qui peuvent être très anciennes. Hein. On peut se dire qu'on joue des mélodies presque moyenâgeuses. Si on peut aller plus dans des choses plus moyen-orientales, avec des épices dans les couleurs, des petites notes qui sont moins habituelles pour nous maintenant, qui ont existé à une époque, qu'on a totalement mis de côté. Donc là, on est dans des choses qui peuvent exister en Turquie, mais qui existent aussi en Algérie, parce que ça a été ottoman au bout d'un moment. Et on entend ça aussi dans le raï. Après, c'est plus le rythme, c'est plus comment on respire qui fait qu'on passe d'un endroit à un autre, mais voilà. On peut aller sur des choses beaucoup plus ouest-africaines. Avec cet instrument, je peux faire presque du blues en fait. C'est marrant, on peut se dire que la musique orientale c'est le blues. Ça vient de là. Le Mali, le blues, il y a des gammes comme ça qui existent, qui sont un peu entre les deux. Jouer par exemple cette gamme-là que tout le monde connaît, je pense. On entend direct l'Orient pour nous. C'est une chose qui existe aussi dans la musique baroque. Ça existe, c'est les mêmes notes, mais je phrase différemment, on va dire. C'est la manière de glisser. Et cet instrument-là, il est très intéressant pour ça. Et puis, on peut vite voyager et créer des mondes qui n'existent pas vraiment, mais qui existent aussi, parce qu'on l'imagine. C'est le pendant vaudou.
Ao som do oud, terminamos esta viagem na esquina da Avenida Almirante Reis com a Rua Álvaro Coutinho. E sexta-feira à noite, altifalante toca em alto volume num passeio movimentado entre fast-food indiano e restaurante nepalês. Os ritmos argelinos levam a cidade para outro lado do Mediterrâneo.
Bonsoir tous les soirs, ça va bien.